En 1969, trois amis ont décidé de traverser le Canada en voiture. L'un d'entre eux s'appelle David Milgrad. Comme le voyage est long, ils décident de s'arrêter en chemin chez des amis qu'ils ont à Saskatoon. Ils vont loger chez lui, il habite dans le sous-sol d'une maison qu'il loue au propriétaire de la maison. Ils vont rester là quelques jours seulement, mais un soir, la police va trouver, pas loin de leur appartement, le corps d'une jeune femme de 20 ans qui s'appelle Gail Miller. Elle a été violée et assassinée. Pour différentes raisons, les trois garçons, qui n'ont pas encore 20 ans, sont fortement soupçonnés, et en particulier David Milgrad. Ses amis qui essayent de se sortir d'affaires disent à la police que ce soir-là, il est rentré avec ses vêtements tachés de sang. Plusieurs autres indices vont être relevés et portés à son compte. Finalement, en 1970, David Milgrad sera condamné à la prison à vie pour avoir violé et tué Gail Miller. David Milgrad va rester en prison pendant 23 ans. Après 23 ans, la Cour suprême du Canada va le libérer sous condition. Et 5 ans après, en 1997, finalement des tests d'ADN vont être faits qui vont prouver que David Milgrad n'est pas l'assassin de Gail Miller. Erreur judiciaire. Ces tests d'ADN vont permettre, par contre, de retrouver le véritable meurtrier, qui est le propriétaire de la maison où il logeait ces quelques jours-là. Mais 23 ans en prison. 23 ans en prison pour un innocent qui n'avait rien fait. D'ailleurs, ce cas qui a duré pendant des années n'a été définitivement clôturé qu'en 2008. 23 ans de prison. Et je ne parle pas là de tous ceux qui ont été mis à mort et qui sont innocents et pour lesquels aucune libération n'a été possible. Erreur judiciaire. L'histoire en comporte de nombreuses des erreurs judiciaires. Je pense à cette situation qui est la nôtre, où en fait, le test d'ADN a été fait sur nous. Le test d'ADN a été fait sur chacun d'entre nous et le résultat est clair. Coupable, pécheur, vous connaissez ce que disent les Écritures. Dans Romains chapitre 3, au verset 23, il est dit « Car tous ont péché et tous sont privés de la gloire de Dieu. » L'Ancien Testament est aussi clair. Vous connaissez ce texte de Jérémie, chapitre 13, verset 23, qui dit « Un Éthiopien peut-il changer sa peau ? Un léopard ses taches ? De même, pourriez-vous faire le bien, vous qui êtes accoutumé à faire le mal. » Le test d'ADN a été fait et pour nous, ADN veut simplement dire accusé de nature, parce que nous sommes par nature pécheurs, donc condamnables, donc condamnés, donc voués à la mort. Le résultat est clair. Que l'on soit le plus grand des saints ou le plus grand des pécheurs, le résultat est le même finalement. L'ADN l'a dit clairement, condamné, accusé de nature, pécheur. À partir de ce constat, l'humanité crie vers Dieu. Et nous avons sans doute nous aussi crié vers Dieu à un moment ou à un autre de notre vie. Dans l'Écriture, de nombreux serviteurs de Dieu ont crié au secours au Seigneur. J'aimerais prendre quelques textes avec vous qui traduisent l'angoisse de cette humanité condamnée à mort inexorablement. Regardez par exemple dans le livre de Job au chapitre 7. Dans le livre de Job au chapitre 7 au verset 21, il est écrit ceci. « Pourquoi ne pardonnes-tu mon péché? Que n'oublies-tu mon iniquité? Car je vais me coucher dans la poussière, tu me chercheras et je ne serai plus. » Job crie à Dieu. « Que ne pardonnes-tu mon péché ?» J'aimerais regarder avec vous le cri de David dans le psaume 51. Psaume 51 au verset 6, se trouve là le cri de David. Psaume 51, au verset 6, il est dit « J'ai péché contre toi seul, et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. » David est conscient que la sentence qui tombe sur l'humanité est juste et méritée. Pécheur, par définition. J'aimerais regarder avec vous le cri du prophète Ésaïe. Ésaïe confronté à la sainteté de Dieu, dans Ésaïe au chapitre 6. Ésaïe chapitre 6, au verset 5, il est écrit ceci. Ésaïe chapitre 6, verset 5. « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Malheur à moi, le cri du prophète qui voit Dieu dans sa sainteté. Et finalement, dans le Nouveau Testament, le cri de l'apôtre Paul. Dans Romains chapitre 7, au verset 24, se trouve ce cri que beaucoup ont adressé à Dieu. Romains chapitre 7, verset 24, l'apôtre Paul écrit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Depuis toujours, l'humanité, consciente du verdict inévitable, crie à Dieu, appelle Dieu, « Seigneur, que ne pardonnes-tu ? Seigneur, sauve ! Seigneur, au secours ! Seigneur, délivre ! Qui va me délivrer ?» Et les hommes ont beau essayer d'ignorer ce fait. Les hommes ont beau essayer de suivre l'exemple de Jean-Jacques Rousseau qui disait que l'homme est bon par nature et de faire croire que c'est finalement la société qui le corrompt. L'homme a beau essayer d'enlever la notion de loi ou la notion de péché pour essayer de se sortir de cette situation, ça ne change rien parce que de toute façon, les hommes font toujours une foule de choses pour échapper à la culpabilité. Curieusement aussi, dans notre situation, c'est une énorme erreur judiciaire qui nous permettra de nous en sortir. Parce que vous en souvenez, les Écritures nous disent qu'il y a 2000 ans, un homme a été arrêté, un homme a été condamné, un homme a été mis à mort. Et c'était la plus grosse erreur judiciaire de toute l'histoire de l'humanité parce que il était juste, lui, et ils ont laissé courir le coupable. En fait, il était le seul juste. Et lui, ils l'ont mis à mort. Pourtant, le test de l'ADN avait aussi été fait pour lui. Et la parole de Dieu est claire. Regardez dans la première épître de Jean, au chapitre 3. Première épître de Jean, chapitre 3. C'est là le test de l'ADN fait sur Jésus, le condamné à mort. Première épître de Jean, chapitre 3, au verset 5. Or, vous le savez, il écrit, « Jésus apparut pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. » Le test de l'ADN a été fait, pas de péché en lui. Regardez un autre texte dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 14. Et au verset 30, Évangile selon Jean, chapitre 14, au verset 30, il est dit ceci. C'est Jésus qui parle et qui dit « Je ne parlerai plus guère avec vous, car le prince du monde vient. Il n'a rien en moi. » Jésus est clair. Il n'y a rien en lui par lequel l'ennemi puisse le saisir. Le test de l'ADN a été fait sur Jésus, ce condamné à mort. Il n'y a pas de péché en lui. Mais alors pourquoi donc l'a-t-on mis à mort ? Erreur judiciaire. Erreur judiciaire magistrale, qui sera prouvée d'ailleurs par la résurrection. C'est l'erreur judiciaire qui se produit lorsque le seul juste se trouve au milieu de l'humanité entièrement injuste. Et curieusement, cette erreur judiciaire magistrale est la clé de notre salut. C'est la clé de l'Évangile. C'est le mystère de l'Évangile. C'est le paradoxe de l'Évangile. Regardez avec moi ce passage dans la deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, où l'apôtre Paul exprime cette idée incroyable que Jésus, par cette erreur judiciaire, nous permet d'être sauvés. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 5, au verset 21, il est écrit ceci. Deuxième épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Erreur judiciaire. Ils ont fait mourir le juste et ils ont laissé courir le coupable. Le coupable court encore, Barnabas. Mais derrière Barnabas, il y a vous, il y a moi, il y a tous ceux qui sont accusés de nature. Tous ceux qui par nature sont pécheurs et par conséquent condamnés aussi. Alors appelez ça substitution, appelez ça échange, appelez ça rachat, appelez-le comme vous voulez. C'est la clé de l'Évangile. C'est le mystère du salut. C'est la bonne nouvelle pour tous ceux qui acceptent de se retrouver cachés dans celui qui a été mis à mort dans cette erreur judiciaire. Mais alors, à cause de cette erreur judiciaire, l'univers entier est en émoi. Parce que l'univers entier a été témoin de cette erreur judiciaire, de ce scandale sans nom. Si bien que la Cour suprême de l'univers va devoir intervenir un jour. Elle est déjà intervenue d'ailleurs, pour commencer à remettre les choses en ordre devant cette immense erreur judiciaire. Ainsi, cette Cour suprême de l'univers doit faire en particulier trois choses importantes. La première, rendre à celui qui a été condamné pour rien ses lettres de noblesse. Et c'est ce que Dieu a fait. Dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 2, il nous est dit ceci au verset 9. Philippiens, chapitre 2, au verset 9, il est écrit « C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Devant l'univers entier, Dieu a rendu à Jésus ses lettres de noblesse, afin que tout genou fléchisse devant lui. Non pas seulement ceux qui sont sur la terre, mais dans l'univers entier. C'est la première chose que cette Cour suprême de l'univers doit faire, rendre à Jésus ses lettres de noblesse. Il est l'innocent et il est mort. La deuxième chose que cette Cour suprême va faire, c'est donner la compensation. Il est mort, alors vers qui va-t-elle aller cette compensation? Cette compensation va aller vers tous ceux qui acceptent d'être cachés en Jésus-Christ. Regardez dans la première épître de Paul à Timothée. Première épître de Paul à Timothée, chapitre 1er, au verset 15, l'apôtre Paul écrit ceci. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. Et vous connaissez ce passage de l'épître de Paul aux Romains où il dit au chapitre 8 « Il n'y a maintenant donc plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ ». Ce que la Cour suprême de l'univers va faire en deuxième lieu, c'est de donner cette compensation. Exercer, autrement dit, un autre jugement. Un jugement par lequel la Cour suprême de l'univers va donner la compensation à tous ceux qui se réclament d'être des disciples de Jésus-Christ. La troisième chose que la Cour suprême de l'univers va faire, c'est exécuter la justice jusqu'au bout. Mais jusqu'au bout, l'Apocalypse nous en parle au chapitre 20. Apocalypse chapitre 20, au verset 10, il est dit « Et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. » Une parole qui nous rappelle la permanence de ce jugement. L'expression qui est employée ici ne nous indique pas que le feu du Seigneur va brûler à l'infini, mais que ce feu a des conséquences éternelles. Des conséquences éternelles pour l'ennemi, l'ennemi de l'humanité, des conséquences éternelles pour tous ceux qui se sont associés à l'ennemi de l'humanité et qui sont restés attachés à lui. C'est là que la justice de Dieu s'exerce jusqu'au bout. Voilà les trois choses essentielles que la Cour suprême de l'univers doit faire. Réhabiliter celui qui a été condamné à mort injustement. Deuxièmement, donner la compensation à tous ceux qui sont ses disciples. Troisièmement, détruire tous ceux qui ont choisi d'être détruits avec l'ennemi de l'humanité. En fait, avec celui qui a mis à mort injustement le seul juste qui ait jamais existé. Juger et sauver. C'est extraordinaire parce qu'aujourd'hui, en nous présentant devant la table symbolique du Seigneur, c'est aussi devant un jugement que nous nous présentons. Parce qu'en réalité, nous allons recevoir ici à nouveau le gage de cette mort injuste, le gage de cette erreur judiciaire, et en tant que disciples, nous nous présentons pour recevoir la compensation de cette erreur judiciaire. C'est un jugement qui est prononcé pour tous ceux qui se présentent aujourd'hui devant cette table du Seigneur. Mais c'est un jugement par lequel nous sommes jugés, sauvés, réhabilités grâce à cette erreur judiciaire, à la plus grande qui ait jamais été faite. Alors, jugé de cette manière, je me sens de nouveau en harmonie avec Dieu. Et j'ai envie de crier comme David ce qu'il disait dans le psaume 35. Regardez avec moi comment David s'adresse à Dieu dans le psaume 35 au verset 24. Psaume 35, verset 24. David s'adresse à Dieu et ce cri est maintenant bien différent du cri qu'il jetait à Dieu tel que rapporté dans le psaume 51. Maintenant dans le psaume 35, David dit à Dieu, verset 24, « Juge-moi selon ta justice éternelle, mon Dieu. » Parce que David comprend que le jugement de Dieu en sa faveur est une occasion de réjouissance. C'est une joie, c'est une délivrance, c'est une réhabilitation, c'est le salut pour lui. Alors aujourd'hui, en me présentant devant cette table symbolique du Seigneur, dans cet événement particulier que Jésus a vécu une dernière fois avec ses disciples, je me présente à lui pour être jugé. Et je suis heureux de ce que Dieu, à cause de cette erreur judiciaire monumentale, de ce scandale, peut me juger sauvé au nom de Jésus. Et puis je suis heureux de ce que Dieu a laissé cette erreur judiciaire arriver. Je suis heureux de ce que Dieu ait laissé cette situation scandaleuse se répandre à travers l'univers entier, de laisser le seul juste mourir sur la croix. Je suis heureux de ce que le Seigneur n'ait rien fait pour retenir cette erreur judiciaire. Je suis heureux de ce qu'il n'a pas répondu tout de suite au scandale qui s'est répandu dans l'univers à cause de cette mort honteuse. Parce que grâce à cette erreur judiciaire, je peux dire, Seigneur, juge-moi selon ta justice et accorde-moi ton salut. Au nom de Jésus. Amen.